Vous écoutez
RMC.
RMC Football Show.
Simon Dupin.
19h01, c'est le coup d'envoi de la seconde période d'un RMC Football Show un petit peu perturbé hein, lors de cette première période. On a d'abord eu Angers détrôné au niveau des cas de Covid par les Girondins de Bordeaux. Hein, 21 cas positifs du côté de Bordeaux contre 19 désormais du côté de Angers. On était avec Xavier Tuilot en début d'émission, vous pouvez retrouver son interview sur le site rmcsport.fr et sur Twitter. Et puis cette information, Niko Kovac n'est plus l'entraîneur de l'AS Monaco, l'entraîneur croate remercié par les dirigeants de la principauté. De tout cela, on en a parlé avec Manu Amoros qui poursuit cette émission avec moi jusqu'à 20h. Manu, t'es toujours là?
Bien sûr, je suis toujours là. On bouge pas.
Et on rappelle qu'à partir de 20h, vous retrouverez l'after autour de Timothée Mémon. Mais pour l'instant, on va se pencher tous ensemble sur le cas de l'Olympique Lyonnais. Peut-être la plus grosse déception de cette première partie de saison. Supporters lyonnais, on vous attend au 32-16. Vous venez nous dire si vous croyez à un hiver et un printemps plus conformes aux ambitions de votre club. En attendant, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Pelletier de la rédaction RMC Sport. Salut Nico, merci de passer nous voir.
Salut Simon, salut Manu,
salut à tous.
Nicolas, tu vas me permettre ce petit euphémisme, mais la fin de l'année a été compliquée pour l'Olympique Lyonnais.
Très compliquée, ouais. Les supporters de l'Olympique Lyonnais pensaient sûrement passer les fêtes de fin d'année tranquillement, mais la semaine a été très rude. Alors, on a eu la commission de discipline de la Fédération qui a éliminé Lyon de la Coupe de France en début de semaine. Et puis, hier, on a appris que l'Olympique Lyonnais était aussi touché par cette vague de Covid qui est en train de déferler sur la Ligue 1. Pour le moment, 7 joueurs ont été testés positifs au Covid-19. La reprise de l'entraînement était programmée aujourd'hui. Hier soir, on apprend dans les colonnes du Progrès, le club qui dément le nombre de cas importants dans son effectif professionnel. Mais c'est surtout la situation du meneur de jeu brésilien, Lucas Paqueta, qui inquiète le plus à Lyon. Positif au Covid, le joueur est actuellement bloqué à Dubaï, où il a passé les fêtes de fin d'année avec sa famille. La préparation, je le disais, donc est impactée. Les joueurs positifs au Covid ne peuvent pas partir en stage en Espagne samedi pour le stage de début de saison. Et Paqueta sera lui aussi absent de cette mini-préparation hivernale de 5 jours, mais pourrait poursuivre sa période d'isolement hors du territoire émirati s'il fournit un test négatif dans les prochaines heures. On le sait, l'OL attaque 2 mois très importants pour redresser le club au niveau sportif. Olas l'a dit, il a mis un petit coup de pression à Peter Boss il y a quelques jours avec cette date de fin février. Et cette exclusion de la Coupe de France il y a quelques jours permet à Lyon d'avoir une semaine complète pour préparer son match face au PSG le 9 janvier. Et surtout, ce qu'il faut noter, parce que j'ai regardé tout à l'heure, Lyon va connaître 2 mois assez dingues au niveau calendrier. PSG, Saint-Etienne, Monaco, Nice, Lens et Lille avant fin février. Et normalement, le match reporté face à l'OM. Donc on comprend mieux la date de fin février pour le coup de pression.
Oui, parce que c'est ça, hein, on a maintenu la confiance à Peter Boss, mais avec un petit...
Avec un bémol quand même, jusqu'à février, quoi, pas plus. Hein. Alors si tu redresses pas la situation, allez hop, merci, au revoir.
Et tu joues le top 5, top 6 de la Ligue 1 avant fin février.
Oui, effectivement. Ouais. Est-ce que, Nico, le salut, les solutions envisagées vont passer par le mercato? À quoi faut-il s'attendre côté lyonnais à ce niveau-là?
Les supporters lyonnais espèrent que ça va passer par le mercato. Jean-Michel Aulas a promis des changements dans les semaines à venir pour redresser la situation sportive difficile. Alors, après le départ de Juninho, l'OL a nommé Bruno Cherou comme conseiller technique et directeur de recrutement, avec les départs à la CAN de Karl Toko Ekambi, d'Islam Slimani et de Kadewere. Selon nos informations, Lyon cherche un renfort offensif. La piste menant à Azmoun, l'attaquant du Zénith Saint-Pétersbourg, est compliquée par la concurrence d'autres clubs, notamment l'Atalanta Bergame. Et au rayon des départs, la presse belge évoque un intérêt de Newcastle pour Jason Denayer. Au Brésil et en Italie, on parle de Bruno Guimarães, ciblé par l'AS Rome. Mais c'est surtout aujourd'hui, ce matin, dans les colonnes de l'équipe, où on apprend que l'OL souhaite se séparer de Shaqiri 6 mois après l'avoir acheté à Liverpool pour 6 millions d'euros. Les dirigeants lyonnais ne sont pas satisfaits du rendement du Suisse. 13 matchs joués pour un but et une passe décisive. Le bilan est très maigre. Le Suisse, qui veut disputer la prochaine Coupe du Monde au Qatar avec la Suisse, cherche donc du temps de jeu et une porte de sortie, mais avec son salaire de 350 millions d'euros, les clubs ne se bousculent pas au portillon.
Oui, forcément. Combien t'as dit? 350 millions, c'est le salaire de Manu Amoros.
350 000 euros.
Non, mais tu vois, mais tu vois, on peut se tromper sur des joueurs. Shaqiri, c'est une catastrophe. À Liverpool, il a passé trois saisons. En tout, sur trois saisons, il a joué 31, 41, 45 matchs. Donc, c'est pas énorme de la saison. En plus, dans un club comme Liverpool, où tu aurais pu jouer davantage. Donc, il fallait peut-être y réfléchir un peu plus tôt et ne pas dépenser autant d'argent pour un seul joueur comme ça, qui malheureusement, voyant ton effectif, voyant la façon de jouer de l'entraîneur, de pourquoi on le prend.
Mais est-ce qu'il confirme
et
pas
le faire partir six mois après, c'est ridicule.
Est-ce qu'il confirme pas aussi la petite rumeur qui tourne sur lui, qu'il est bon avec la sélection, mais toujours moyen en club?
Bah oui, sûrement, oui, peut-être, hein, peut-être. Mais 350 000 euros, moi je me bats. Hein.
Oui, bah surtout que c'est marrant parce que au début de saison, il y avait quand même beaucoup d'entrain, même si il y a eu des résultats un petit peu en dents de scie lors des matchs de préparation. Il y avait quand même une hype, on dit en anglais, autour de du style de jeu prôné par Peter Bosz. Supporter lyonnais, on vous accueille volontiers au Standard. Vous faites le 32-16, vous venez nous donner votre sentiment. Avant d'accueillir Pierrick qui est déjà là et qui nous attend, Manu, que te dit ton flair, toi qui as connu ce club et le très haut niveau? Lyon peut de toute façon faire mieux, même avec Peter Bosz sur le banc, non? C'est la situation n'est pas si catastrophique que ça.
Elle n'est pas si catastrophique que ça, mais Nico l'a bien résumé. Ils ont un début de reprise et dramatique, quoi, parce que si ils perdent déjà contre Paris Saint-Germain, il va falloir quand même se remotiver et essayer de gagner à 3, qui sera pas facile à jouer parce que eux, ils jouent les places de relégables, donc ils vont être très difficiles. Après, quand même, tu reçois Saint-Étienne, tu vas à Monaco, tu reçois Nice, tu as le match de Marseille, tu vas à Lens, tu reçois Lille. Enfin, c'est un début de reprise. S'il démarre mal, ça va être très compliqué de revenir. Ouais. Parce que mentalement, si tu démarres mal, tu vas avoir ce match-là dans la tête hein, sans arrêt. Bon, en plus, tu n'as pas de chance, tu reçois le Paris Saint-Germain le 9. Donc, ça ne va pas être facile non plus. Hein.
Est-ce que tu, Manu, est-ce que tu ne penses pas que le match de Saint-Etienne sera quand même décisif?
De Saint-Etienne?
Oui, le match après, il y a Paris 3 et Saint-Etienne, ouais. Ça permet quand même de faire un bilan, même s'il a dit fin février, mais ça quand même permet
Déjà, il faut essayer de. Déjà, non. Moi, je pense que les 5-6 matchs qui viennent vont être très importants pour Lyon. Et c'est pour ça que Jean-Michel Aulas a donné un ultimatum à l'entraîneur en disant il faut qu'au mois de février, on soit pas 13e, mais au moins dans les 5 premiers ou dans les 4 premiers. Mais ça va être très compliqué par rapport au calendrier qu'il y a. Ça va être impossible de revenir.
Si on enlève Paris intouchable, Manu, Lyon oui, avec 24 mais bien points, sûr qu'il est, ouais, mais ils sont à 9 points de Nice.
Il n'y a pas de problème. Et que tu es dans une spirale qui est pas bonne, tu restes dans cette spirale. Il faut que les joueurs soient forts mentalement et que l'entraîneur les aide aussi mentalement pour qu'ils reviennent et passent au-dessus. Mais quand tu es dans cette spirale négative, c'est compliqué de revenir, c'est moi qui te le dis. Parce que moi, j'en ai vécu des situations comme ça. Et tu as toujours... l'entraîneur dit allez les gars, il faut se remotiver, il faut y aller, tout ça, mais après c'est les jambes qui ne suivent plus. Dans la tête ça peut suivre, mais dans les jambes ça arrive plus, il n'y a plus rien qui y va et il n'y a plus rien qui fonctionne.
On va demander son avis à Pierrick, supporter de l'Olympique Lyonnais, qui a fait le 32-16. Salut Pierrick, bienvenue dans le RMC Football Show.
Salut tout le monde.
Bonsoir Pierrick.
Pierrick, quel est ton sentiment? Est-ce que tu es optimiste pour cette deuxième partie de saison de Lyon, ou est-ce que tu vois terminer l'OL?
Bah, optimiste, non, pas spécialement, parce que, on a dit qu'il fallait laisser du temps à l'équipe, nouvel entraîneur, nouvel effectif, un mercato qui était prometteur, etc. Bon, finalement, on est 13e, finit la première partie de saison 13e. Il y a des problèmes avec les supporters, on va prendre des matchs à huis clos, des suspensions, etc. Enfin, j'ai l'impression que tout le club va mal, en fait, à tous les niveaux. La direction, les joueurs, la cellule de recrutement, enfin voilà, il y a des trucs qui vont pas, quoi. Shaqiri, effectivement, ça aurait pu être une bonne pioche, mais on prend un joueur, on a besoin d'ailiers, on n'a quand même pas des ailiers qui sont déjà purement ailiers. Ils sont soit buteurs, soit milieu, et ils sont mis sur le côté, etc. Donc, j'ai l'impression que moi, il y a tout qui va mal. Faudrait presque faire un retour à zéro et puis se remettre vraiment, vraiment, vraiment.
Mais Pierrick, est-ce que tu penses pas que Jean-Michel Aulas, il devrait passer la main maintenant, non? Ça fait tellement qu'il est dans le monde du football à Lyon que franchement,
alors toi, t'es sur une solution radicale, Manu, là. On est même plus sur du radical,
mais
là.
Il y a des décisions aujourd'hui. De toute manière, toutes les décisions de Lyon, c'est par Jean-Michel Aulas. C'est lui qui fait un peu comme Tapie à l'époque, fait un peu, peut-être pas l'équipe, mais il veut s'informer de tout dans le club. Et peut-être qu'à un moment donné, sa présence trop importante dans le club et dans le groupe pro, ça gêne peut-être certains. Juninho, pourquoi il s'en va? Il était heureux et il a fait du bon boulot. Même s'il s'est trompé, mais quand on se trompe, c'est là aussi où on apprend. Donc à partir de là, est-ce que c'est pas lui aussi le problème ?
Ça pourrait. Moi, je pense que ça peut être une solution. Hein. Après, voilà, il a déjà essayé de déléguer, ça n'a pas été non plus. Comme tu disais, il a laissé les mains, enfin laissé les clés un peu à Nino et bien, ça a été compliqué. Non, honnêtement, la solution, je pourrais pas le dire. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Je peux pas. Mais
il y a que les joueurs qui ont la solution. Hein. Il faut qu'ils soient bons sur le terrain et qu'ils gagnent des matchs. Après, le club ressortira plus grand.
Ouais, mais les joueurs, en fait, ils sont pas forcément non plus ultra mauvais. Je veux pas les défendre.
Non,
mais ils sont compétents, je veux dire.
Oui, mais Pierrick, on a l'impression des fois qu'ils sont pas impliqués.
Ouais, ça, je suis d'accord. Par contre, quand on les voit sur le terrain, par exemple, notamment en défense, c'est une catastrophe. On a l'impression qu'ils savent pas quoi faire. Même Jason Denayer, qui pourtant est un bon défenseur quand même, on le voit, on a l'impression qu'il est perdu. Avec les joueurs autour de lui, il ne sait pas où se placer, il ne sait pas comment. Honnêtement, ça fait bizarre par rapport aux années précédentes. Donc, il y a de la qualité, il y a tout ce qu'il faut. Après, effectivement, il y a, je pense, un petit manque d'implication. Mais justement, ce manque d'implication, à un moment, quand on est à Lyon, c'est pas normal. À un moment, c'est pas normal. C'est bien qu'il y a quelque chose qui est plus profond que simplement les joueurs qui ont une mauvaise mentalité. Combien de joueurs ils partent du club et finalement ils sont bons, ils sont meilleurs dans d'autres clubs. Ça veut bien dire qu'à mon avis il y a quand même une atmosphère, quelque chose. Je sais pas, peut-être qu'ils veulent simplement utiliser Lyon comme tremplin pour un autre club, etc. J'en sais rien. Mais moi je pense que c'est symptomatique d'une atmosphère qu'il y a à Lyon et qui fait qu'en fait il y a pas grand chose qui va et ça se voit sur le terrain. Bah on est 13e et c'est la place qu'on mérite clairement.
Bon, moi, messieurs, je note que ça complote contre Jean-Michel Aulas. Je sors de ce coup-là.
Moi, j'ai connu Jean-Michel Aulas comme président, donc il était très bien. Et c'était un très bon président. Il est toujours un très bon président, mais il y a des fois, on peut se poser la question. Ça fait tellement de temps qu'il est à Lyon que peut-être il pourrait passer la main et tout le monde passerait à autre chose.
La méthode peut-être Aulas qui aurait été un petit peu usée. Pierrick, tout à l'heure, t'entendais les pistes mercato évoquées par Nico Pelletier. Est-ce qu'il y a quelque chose, quelqu'un qui te fait rêver? Toi, tu rêverais de qui à toi au mercato, tout en restant réaliste avec les finances du club?
Honnêtement, moi déjà, si on prend des ailiers de formation, que ce soit en défense ou en attaque, ça me ferait plaisir de prendre des mecs qui sont pas forcément aussi bons intrinsèquement parlant que les joueurs qu'on a dans l'effectif, mais qui sont vraiment formés et liés. Parce que nos côtés, ça va pas du tout, quoi. Je veux dire, à un moment, je pense que si on prend les clubs qui sont qualifiés en 8e de Ligue Europa, si on prend tous les clubs, là, je pense qu'on a les plus mauvais côtés de quasiment que. Dubois, je l'aime bien, mais au bout d'un moment, il a des grosses lacunes. À gauche, on change tous les trois matchs, on n'a jamais le même défenseur. En attaque, on a des joueurs qui jouent sur les ailes, c'est pas des ailiers de formation. Au bout d'un moment, ils reviennent tous au milieu et puis ils se marchent dessus. Il y a Paqueta qui veut le ballon pour construire le jeu. Aouar aussi. Shaqiri, il était meilleur en 10, donc il revient toujours à l'intérieur, etc. À un moment, on n'utilise pas tout le terrain, etc. Donc, je pense qu'il faut des ailiers après, quel qu'il soit. Je pense des ailiers après, peu importe. J'ai pas de nom en tête qui pourrait se faire, mais ouais, juste des ailiers. Vraiment des ailiers. Tout le reste, on a ce qu'il faut, mais ouais, des joueurs de côté, quoi.
Manu, c'est vrai que Pierrick marque un point là. Tout de même, il y a quand même beaucoup de joueurs à Lyon qui sont attirés et par le fait d'avoir le ballon dans les pieds, et du coup, ça va souvent ensemble avec l'axe du terrain.
Oui, mais moi je pense que c'est plutôt un problème collectif aussi. Oui. C'est-à-dire, on peut avoir des ailiers, des non-ailiers qui peuvent rentrer sur le côté et éventuellement, des fois, quand tu es en phase offensive, c'est plutôt maintenant aujourd'hui les latéraux qui amènent ce surplus là sur les côtés. Après, c'est vrai que il y a souvent des joueurs qui se marchent dessus. Des fois, ils se retrouvent à 4-5 au milieu de terrain et c'est là où il y a un embouteillage énorme et dans l'organisation du jeu, c'est compliqué.
On verra ce qui se décide, mais c'est vrai que ça va peut-être bouger. Je note que Pierrick a remarqué qu'on fait jouer des avant-centres ailiers et je t'en parlais hier. Hein, t'étais pas tout
ouais,
à fait convaincu.
Ouais, mais il faut être polyvalent. Ouais, bon, tu sais que moi j'ai commencé en numéro 10 quand j'étais jeune et au centre de formation à Monaco et j'ai joué à tous les postes au centre de formation en tant que cadet et junior. Et après je me suis fixé à un poste latéral.
Ouais, mais est-ce que reculer et se décaler sur la même ligne, encore une fois le poste d'avant-centre il est très particulier.
Ouais, il est assez spécifique.
J'ai un peu de mal tout de même, je me répète, je sais avec cette conception moderne du football qui pousse les mecs qui ont joué numéro 9 pendant 10 ans dès qu'ils arrivent dans un grand club à s'excentrer sur un côté pour conserver leur place et conserver du temps de jeu. Et c'est vrai que Toko Ekambi par exemple, quand on le voit jouer côté gauche, bon c'est un numéro 9.
Ward Cornet, il a toujours joué avant-centre. À Lyon, il est venu, il a joué sur le côté, il a joué latéral, et là, il retrouve un poste où il a commencé avant-centre, et il est très bon.
Oui, mais alors Cornet, si j'étais de mauvaise foi, je pourrais te répondre qu'il est gaucher, et que des avant-centres gauchers, il y en a un peu moins, et que du coup, quand t'as que le pied gauche, tu te fais un très bon ailier gauche. C'est pour sauver un peu la face, c'est pour contrer ton argument. Merci beaucoup Pierrick d'avoir fait
merci
le 32-16. On espère des lendemains meilleurs, mais ça ne peut que s'améliorer du côté de Noël avec un effectif pareil.
Il faut garder la confiance.
Bon, et on précise que tout à l'heure dans le best-of de Rotten sans flamme, on reviendra sur le passage de Juninho, le quasi ex-directeur sportif de l'OL qui va quitter ses fonctions en janvier et au crédit duquel on peut quand même mettre le talent de Paqueta quand même qui s'est révélé il y a quelques semaines, on en faisait le meilleur joueur de la saison en Ligue 1, on va pas quand même lui mettre tous les problèmes de Lyon sur le dos.
Non, mais on se trompe tout le temps, surtout ils font pas un métier facile parce que dans le recrutement on pense avoir un joueur de qualité qui va s'intégrer dans le groupe professionnel de Lyon, mais des fois malheureusement on s'est trompé et on se trompe régulièrement, mais il faut de moins en moins parce que ça coûte de l'argent.
Et oui, et ça évidemment dans le foot ça coûte cher quand on veut des bons joueurs.
Regarde, imagine-toi si Shaqiri s'en va, admettons qu'il trouve un club à 350 000 euros par mois. Et la vente va se faire à combien? À 5 millions, 6 millions, 4 millions, 1 million? Écoute, ils ont payé 6 millions, quoi.
Bon, j'ai déjà d'autres soucis. Si tu me demandes de vendre Shaqiri à son salaire actuel, ça va être trop compliqué pour moi. Allez, vous restez bien avec nous. On continue de parler mercato parce que, comme promis, on a dû scinder notre mercato en deux parties, notre mercato show, la Ligue 1 tout à l'heure, qui était un petit peu vampirisé par ce qui est l'info du jour. Hein, Niko Kovac, qui n'est plus l'entraîneur de l'AS Monaco, les dirigeants du club de la Principauté qui ont annoncé ça à l'entraîneur croate. En début de soirée, Kevin Gasser est revenu en studio. Dans un instant, le tour des rumeurs, des infos mercato, mais en Europe cette fois. Tout de suite sur RMC.
RMC Football Show.
Simon Dutin.
À 19h20, c'est déjà le retour du RMC Football Show. On est ensemble en direct jusqu'à 20h en compagnie de Manu Amoros, notre membre de la Dream Team RMC. Et comme on vous l'avait promis tout à l'heure, le Mercato Show numéro 1 a été un petit peu écourté. Du coup, vous avez droit à un petit peu de rab. C'est le Mercato Show numéro 2.
RMC, le Mercato Show.
Et on est toujours avec notre roi du shopping, Kevin Gasser, qui ouvre sa besace. Rebonsoir, Kevin. On parlait des infos en Ligue 1. On va quitter les frontières françaises. Qu'est-ce qu'on a en Europe? Il y a du lourd, je crois, au niveau des infos qui sont tombées.
Oui, c'est un feuilleton qui risque déjà de nous tenir en haleine cet hiver. La situation du Français Ousmane Dembélé. Alors la presse catalane qui annonce un accord de principe avec la Juventus Turin. L'international français de 24 ans et son agent auraient trouvé un accord avec le club italien pour y signer gratuitement cet été, mais le quotidien précise que l'entourage d'Ousmane Dembélé est attentif aux offres et que le PSG, Manchester United et Newcastle seraient aussi sur le dossier. Hier soir, en tout cas, les négociations pour une prolongation prolongation de son contrat était, elle, au point mort.
Manu, réaction, on annonçait que Xavi, on avait d'espoir pour Dembélé, Xavi voulait en faire un élément important du Barça, ça aurait pu le faire progresser, tout, mais, c'est surprenant, non?
Ouais, mais tu as vu le salaire qu'il demandait, est-ce que c'est réel ou pas, on ne sait pas, mais il demandait 40 millions à l'année, plus 40 millions à la signature. Pardon. C'est énorme pour un club qui, même s'ils ont fait un prêt, ils ont des finances quand même qu'il faut qu'ils respectent et qu'il faut qu'ils gèrent aussi facilement. Alors, est-ce que la Juventus va lui proposer ou va accepter de donner 40 millions à l'année, je sais pas, même s'il arrive libre, ça fait quand même beaucoup, beaucoup d'argent pour un joueur qui a joué pas énormément de matchs quand même avec Barcelone, il a été souvent blessé.
Je crois 126 matchs, 30 buts, 23 passes décisives avec le Barça pour le Français, effectivement trop souvent blessé. Bon, affaire à suivre, hein, c'est vrai que c'est, il est gonflé un petit peu d'être aussi gourmand alors qu'il n'a pas encore effectivement rempli, enfin répondu à tous les espoirs que le Barça avait placé en lui depuis son arrivée. On reste au Barça, Kevin.
Oui, c'est un joueur offensif qui pourrait lui partir dès cet hiver. C'est le Brésilien Philippe Coutinho qui a un peu le mal du pays. L'ancien joueur de Liverpool serait prêt à faire un prêt au Brésil jusqu'à la fin de saison. Il est en manque de temps de jeu au Barça, hein, 600 minutes de jeu cette saison, c'est même pas 7 matchs complets. Et il voudrait surtout une chose, c'est ne pas louper la Coupe du Monde 2022 au Qatar et donc avoir une meilleure exposition dans le championnat de son pays natal. L'Atlético Mineiro et Palmeiras seraient intéressés.
Coutinho alias le petit canif, Manu Coutinho, il a du mal, hein, il a été prêté au Bayern, c'était un joueur fabuleux à Liverpool.
Ouais, c'était un super joueur.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Je sais pas, il s'est perdu complètement dans son football et on a du mal à le retrouver, quoi. Alors c'est vrai que est-ce que à l'extérieur il fait pas tous les efforts nécessaires pour pouvoir être vraiment le joueur que tout le monde a envie qu'il soit et que ce qu'il nous a montré, mais on a du mal à le retrouver, quoi. C'est incroyable de voir ce joueur là comme ça s'effriter au fur et à mesure des années qui passent.
Et 29 ans déjà.
Ouais, 29 ans.
Et surtout, oui, effectivement, peut-être un salaire trop énorme lorsque le Barça l'a arraché à Liverpool.
Quand il dit qu'il veut faire la Coupe du Monde, il faut qu'il se bouge aussi, lui aussi, sur le terrain, aux entraînements, et qu'il montre à l'entraîneur qu'il peut être titulaire et qu'il doit être titulaire avec le club.
Effectivement.
Mais est-ce qu'il fait pas tous les efforts nécessaires pour pouvoir se battre?
Donc, le Barça en difficulté depuis le début de saison aurait pu avoir besoin d'un Coutinho moyen,
avec 90%.
Ouais, voilà. La tendance plutôt vers aller un petit bol d'air du côté du Brésil pour retrouver la place en sélection, avant peut-être de revenir briller en Europe. Un ancien Marseillais qui est dans la Gazette des transferts également.
Oui, Michael Cuisance qui quitte le Bayern Munich pour Venise. La signature est imminente. Alors c'est une information de la presse italienne confirmée par RMC Sport. Le milieu de français de 22 ans est actuellement en Italie. Il fait sa visite médicale et il parachève un transfert définitif chez le promu italien. Donc l'officialisation qui devrait arriver dans les prochaines heures. Cette saison, Cuisance n'a disputé que 12 minutes en Bundesliga, c'est pas beaucoup. Et il était souvent même pas dans le groupe bavarois. Et le challenge sera de taille à Venise, 16e de Serie A, qui lutte pour son maintien.
Venise qui s'est jusqu'ici signalé par la beauté de son maillot, hein, auprès des amateurs de kits de football. Manu,
ils t'ont pas plus sur le terrain alors, toi, Venise?
Non, bah alors ils m'ont planté plusieurs fois en Paris Sportif, hein, parce qu'ils ont réussi à embêter une ou deux grosses équipes en Serie A. J'ai plus les noms, je retiens pas tous ces échecs.
Non, mais quand t'es un jeune joueur comme Cuisance, t'es obligé de partir. Bayern de Munich, c'est vraiment un club trop haut pour lui, et ça, il aurait dû y penser avant, même s'il a fait sa formation, il a joué un tout petit peu, il aurait dû se dire bien avant qu'il ne soit écarté de partir et rapidement de s'arranger avec son club et partir. Là, j'espère qu'il va retrouver du temps de jeu, parce que moi j'aime bien ce joueur, il a des grosses qualités physiques, des bonnes qualités techniques, c'est un gaucher de qualité, donc j'espère qu'il va bien réussir à Venise.
22 ans, hein, Kevin le rappelait, ouais, il a encore le temps, il s'est révélé très tôt en Bundesliga, c'est vrai que... Ouais, moi j'ai été surpris que ça marche pas mieux du côté de l'OM. Je trouvais que c'était un super coup lorsque l'OM l'a recruté en prêt. Alors ça, c'est une nouvelle qui va me faire plaisir personnellement, hein, sans vous raconter ma vie. Hugo Lloris veut rester à Tottenham et visiblement.
visiblement, le nouveau boss, le nouveau patron du sportif Antonio Conte, lui, ça lui plairait bien également.
Oui, le coach italien qui compte toujours sur son capitaine. Son contrat à Guelouris finit en juin prochain. Donc, il veut rester. Je suis certain que le club et lui trouveront un terrain d'entente. Ce sont les mots d'Antonio Conte, le capitaine des Bleus, 35 ans, qui a disputé 392 matchs avec Tottenham pour une stat quand même assez affolante, 133 clean sheets, donc des matchs sans encaisser de but, soit plus d'un match sur trois, quand même ça claque.
Formidable, Hugo Lloris, hein, selon moi.
Ouais, mais c'est injustement... parce qu'il a une bonne défense, c'est pour ça.
Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, ouais,
c'est non, vrai c'est vrai qu'il a été très bon à Tottenham, il est super bon. Hein.
Et injustement, selon moi, sous-estimé dans la hiérarchie des gardiens mondiaux. Alors bon, 35 ans, c'est vrai qu'il y en a qui ont plus la cote que lui, ouais. Mais c'est, je sais pas. Moi, je pense que ce serait formidable pour Tottenham. Qu'est-ce que t'en penses, Manu?
Parce que moi, je suis d'accord avec toi. C'est super pour Tottenham. Il y avait Nice aussi qui voulait éventuellement discuter un petit peu avec lui en fin de saison, comme il était libre de revenir à Nice. Mais bon, c'est bien qu'il reste en Angleterre. C'est un football de qualité, c'est un football qui lui plaît.
Oui, ben en tout cas, c'est vrai que bon, je pense qu'il s'est résigné peut-être à laisser sa trace dans un club comme Tottenham plutôt qu'aller gratter.
Il est aimé par les supporters. Oui, à partir de là, tu sais pourquoi partir alors que tu es adulé par les supporters et que tu peux encore jouer.
Et ben justement,
et tu es performant parce que tu peux jouer à 34, 35 ans, 36 ans, mais il faut être performant. Et lui, il est, donc c'est ça qui est important.
Mais il y a toujours pour les grands joueurs et d'ailleurs on est comptable nous de ça, les journalistes, hein, des histoires, on a envie de les faire aller dans des clubs où ils iraient peut-être chercher des titres, et on valorise pas assez, selon moi, ce genre de parcours dans des clubs qui certes ne gagnent pas grand-chose, mais qui sont des institutions.
Tu es supporter de Tottenham ou de Lloris, toi?
Ben moi des deux, figure-toi. C'est pour ça que lorsque Lloris avait signé à Tottenham,
on passe à autre chose.
Je crois que c'était tout. On n'a plus rien dans le cabas, Monsieur Gasser. Merci beaucoup pour les infos au Mercato, le Mercato Show que vous retrouvez évidemment toute la semaine et puis tout le mois de janvier, parce qu'on rappelle que le marché ne s'ouvre en France et en Europe qu'à partir de début 2022.
C'est dans moins de 48 heures.
Effectivement, on fait déjà chauffer les stylos dans les clubs en France et en Europe. Vous ne bougez pas, Manu reste avec nous évidemment, on est ensemble jusqu'à 20h dans le RMC Football Show. Dans un instant, c'est l'un de vos rendez-vous de la semaine, le best-of de Rotten sans flamme. Et on va reparler un petit peu de l'OL, on reviendra sur le passage de Juninho chez les copains Rotten et Jean-Louis Tour. A tout de suite sur RMC.
RMC Football Show.
Simon Dutin.
À 19h30, on attaque la dernière ligne droite de ce RMC Football Show en ce jeudi 30 décembre 2021. La nouvelle année est proche. Vous retrouverez toute l'équipe de Rotten sans flamme, évidemment, à partir de lundi prochain. On va en parler dans un instant. Le temps pour moi de vous rappeler qu'on est en compagnie de Manu Amoros jusqu'à 20h. Et c'est un véritable plaisir, hein, mon cher Manu, de partager ces émissions avec toi. Surtout que, en plus, toi, t'es sur le pont, hein, en cette période de fête. Hein,
mais c'est bien.
On se régale parce que l'actualité du foot ne s'arrête jamais. Nos auditeurs le savent, ils sont au rendez-vous. À 20h, vous aurez rendez-vous, évidemment, avec l'After, comme tous les soirs de l'année. Ce soir, c'est au tour de Timothée Mémon. Je vous rappelle les deux infos de ce début de soirée. Niko Kovac, qui n'est plus l'entraîneur de l'AS Monaco, les dirigeants de la Principauté, qui se séparent de l'entraîneur croate, insatisfait de sa gestion de certains joueurs, de ses résultats tout d'abord en championnat. L'AS Monaco 6e et non pas 8e, je me suis fait planter par nos confrères et copains d'un journal que je ne citerai pas tout à l'heure, faudrait mettre le classement à jour, hein, les copains. Et puis très déçu évidemment par l'élimination en barrage de Ligue des Champions. Et puis on en parlait en début d'émission, on disait avec un petit peu d'humour, pardonnez-nous, mais c'est vrai que on disait qu'Angers était leader du classement des clubs au cas positif de Covid. Angers qui a perdu sa première place au profit ou au détriment, faudrait-il dire, des Girondins de Bordeaux, qui déclarent dans un communiqué publié il y a 2 heures sur le site du club 21 joueurs concernés par des cas de Covid, dont 16 placés à l'isolement. Le président Lopez qui est hors de lui et qui interpelle la Fédération française, qui n'a toujours pas répondu à la demande de report ou d'annulation, je ne sais pas, du match de Coupe de France.
Ils ont match perdu, sinon.
Oui, donc c'est ça, évidemment. Ça va, on en parlait avec le directeur.
Les présidents de clubs de première division se réunissent et discutent entre eux de savoir si on ne peut pas reporter, parce que ça va aller de pire en pire, des cas de Covid.
Bon, en tout cas, on en reparlera évidemment tout le week-end sur RMC. Nous, toute la semaine, on vous gâte avec un best-of de l'émission qui monte. Rotten sans flamme, tous les soirs en semaine, 18h-20h, Jérôme Rotten, Jean-Louis Tour avec leur équipe de consultants, Pascal Olmeta, Mathieu Bodmer, Nicolas Nelka, Manu Petit, Jean-Michel Larquet et tous les autres. Aujourd'hui, ressource sur le passage de Juninho. On parlait de l'OL il y a un instant. Le très bientôt ex-directeur sportif de l'OL, c'était le 17 décembre dernier. L'ancienne légende du club nous parle de l'éclosion d'un certain Lucas Paqueta et annonce son prochain départ du club.
Je vais te poser une question cash. Est-ce que tu penses que Paqueta peut être le nouveau Juninho ? Peut rester des années à Lyon, par exemple, sans aller dans un grand club, et rester à Lyon, parce qu'à Lyon, il y aura de quoi gagner.
Jérôme, il est plus complet que moi, c'est clair ça. Lui, c'est un joueur qui pourrait marquer la histoire ici ou n'importe quel club. Mm-hmm. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il est très content à Lyon. Même avec toute sa croissance, et peut-être qu'il y a des équipes derrière, il n'a jamais parlé de parti. Il est vraiment content ici à Lyon, à la ville, le club, avec les joueurs, avec les supporters. Donc moi, bien sûr, je pense que s'il reste là, il peut faire beaucoup, beaucoup de choses. Parce que c'est vraiment
que c'est possible de pouvoir refuser, si jamais il y a Ligue des Champions à Lyon l'année prochaine, et je vous le souhaite, est-ce que c'est possible de refuser des offres importantes et de le garder plusieurs années?
Oui, parce qu'il est encore jeune. La Coupe du Monde l'année prochaine, elle ne sera pas au mois de juin, juillet. Donc il y a beaucoup de joueurs qui réfléchissent par rapport à ça. Pouvoir jouer dans une équipe plusieurs fois, parce que c'est pratiquement je dirais la première fois qu'il s'installe vraiment en Europe, parce qu'à Milan ça a été très irrégulier. Donc moi oui, je pense oui, mais après il faut savoir aussi la capacité économique du moment, oui. Si on serait capable d'y garder des joueurs comme ça
dans un club coté en bourse, parfois c'est difficile de refuser des gros
joueurs. Mais je souhaite qu'il reste pour un bon moment. Si on vous fait quelque chose de toute façon, c'est pas une critique ou non, mais si on vous fait quelque chose de toute façon, il faut garder une base pour 4-5 saisons.
Bon, si le directeur sportif dit il reste, donc il restera. Il n'y a pas de souci.
Une autre chose qu'il faut parler aussi de Lucas, c'est qu'il a fait un effort économique pour signer chez nous. Il touche moins qu'il touchait à Milan. On peut dire oui, mais bien sûr, il jouait pas là-bas, il fallait faire pas forcément, il avait un contrat. Donc il a fait un effort assez important, il n'en a pas parlé de ça. Donc ça prouvait aussi qu'il voulait rebondir, qu'il voulait jouer. Je pense
t'as raison, Johnny, de nous rappeler ça, parce que ça c'est important aussi. Ça montre la mentalité du joueur, ça montre la passion qu'il a pour le football et le fait de continuer à progresser et de pas accepter un échec comme il a eu à Milan. Est-ce que c'est vrai que Rudy Garcia n'en voulait pas?
Je voulais pas revenir sous ce messier, mais il était pas emballé. Il était pas emballé.
Ah ouais. Il sent bien le foot. Ouais. D'accord, ok. Non, mais bon. Jean-Louis va passer à autre chose alors.
Jérôme, dès qu'il peut en mettre une, quand même, il y va. Juninho avec nous sur RMC, le directeur sportif de l'Olympique Lyonnais. Juninho, parlons. On a parlé du début de saison. Parlons de l'avenir. Il y a le mercato qui arrive en janvier. Est-ce que tu sais déjà à quel point vous allez être actif sur ce mercato? Il y a par exemple des joueurs qui partent à la Coupe d'Afrique des Nations, notamment offensivement. Est-ce que ça peut rentrer dans ta réflexion pour aller chercher quelqu'un?
Oui, ça fait un bon moment, bien sûr, qu'on travaille tous ensemble avec toute la staff technique, avec Peter, parce que Carl Toko et Kambi, il va partir, Tino Kader va partir, Islam va partir aussi, donc ils sont trois attaquants. Donc normalement, même si c'est une compétition que ça va durer peut-être trois semaines, mais en janvier, on a Saint-Etienne, on a Paris, on a des matchs aussi importants, donc qui a d'autres choses qui ça compte. Donc l'idéal, c'est bien sûr d'y trouver des solutions. Je pense que le profil, c'est plutôt un attaquant du couloir qui nous manque pour percuter. On a Karl qui fait très bien ça, mais on a besoin d'autres joueurs aussi, parce que Ryan, il est encore jeune, il est encore irrégulier, c'est tout à fait normal. Et après, bon, vous savez que c'est pas facile à recruter aussi en janvier les meilleurs joueurs.
Vous êtes toujours sur Azmoun, le joueur du Zénith. Vous êtes toujours sur lui?
Azmoun, c'est un joueur qui nous plaît beaucoup. À moi, à Peter, même si c'est plutôt en avant-centre, mais on a vu jouer aussi à gauche, on a vu jouer aussi derrière l'attaquant, on a vu jouer à doux. C'est quelqu'un qui fait beaucoup d'efforts aussi défensifs. Mais bon, on ne sait pas si on sera capable d'y faire, mais bien sûr qu'on va essayer d'y faire quelque chose. Demain, on voit le président, moi et Peter, et on va discuter par rapport à ça avec le président.
D'accord. Tu nous parles souvent de Peter Bosz, qui est normal, c'est ton entraîneur que tu as choisi. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu ta relation? On te sent vraiment très proche de lui, contrairement à son prédécesseur.
Il est proche de tout le monde. La première chose qu'il a voulu montrer, c'est qu'il a besoin de tous, que ce soit la staff médicale, les physios, il donne beaucoup d'importance à les analystes des vidéos aussi, ils travaillent tous ensemble. Tous les jours, bien sûr, on discute, on boit un café, souvent il me parle de l'équipe, des fois il me pose des questions aussi, comme il a fait ça avec Claudio, avec les autres adjoints aussi, donc c'est quelqu'un de très ouvert. Mais bien sûr que c'est quelqu'un aussi qui a la personnalité, c'est quelqu'un qui aime gagner, qui a eu un peu du mal au début, parce que je dirais pas qu'il était déçu, mais peut-être même un peu inquiet quand il a vu le manque d'intensité son ballon. Et c'est là notre problème encore, et c'est là qu'il travaille encore. Donc pour lui, c'était une chose naturelle à la perte des balles, qui tu dois réagir aujourd'hui au foot d'autres niveaux pour des joueurs comme l'Olympique Lyonnais, qui disputent au haut du tableau en Ligue 1. Donc il était un peu inquiet par rapport à ça, mais ma relation avec lui, elle est bonne. Mais comme je dis souvent, entre le directeur sportif et l'entraîneur, il faut qu'ils sachent, comme un directeur sportif, qui c'est lui qui va être sur le bon le week-end. Donc, s'il y a quelque chose, c'est moi qui fais un pas en arrière à chaque fois. Lui, laissez tranquille parce qu'il y a déjà beaucoup de pression. Mais notre relation, elle est vraiment bonne. Moi, j'ai déjà appris beaucoup de choses concernant les entraînements que je vais amener avec moi peut-être un jour. Bon, c'est ça ce que je peux vous dire. Quelqu'un d'agréable à travailler, qui aime rigoler aussi de temps en temps, mais qui est très attaché. À partir du moment que tu rentres sur le terrain aux entraînements, c'est tout de suite le ballon et tout de suite intensité de travail. Moi, j'adore écouter l'entraîneur pour quand on va chercher des joueurs. Toujours, je parle avec l'entraîneur comme je faisais avec l'ancien. Mais c'est vrai aussi qu'il y a des moments qui c'est normal. Moi, je comprends que l'entraîneur, il doit penser tout de suite parce que les entraîneurs, ils savent qu'aujourd'hui, il est là et peut-être que demain, ils ne seront pas là. Le directeur sportif, même si pour moi, j'avais dit 3 ans, donc normalement, je fais ma 3e saison.
J'allais y venir, Johnny. J'allais exactement poser cette question. Qu'est-ce qu'on fait à la fin de l'année alors?
Bon, non, c'est comme j'ai dit, moi j'avais dit 3 saisons pour voir qu'est-ce que je suis capable d'y faire. Je sais que j'ai eu cette opportunité parce que je suis un ancien joueur qui a eu beaucoup de succès au club, parce que si c'était le contraire, j'avais pas cette opportunité-là. C'est clair, ça, c'est net, c'est normal. Ça me dérange pas d'assumer là. Donc à la fin de saison, je vais bien réfléchir, mais dans ma tête, c'était pour 3 saisons. Donc j'espère bien finir. Il y a des choses, bien sûr, que je contrôle pas du tout. Mais je reviens juste pour terminer la dernière question avec Peter. Avec l'entraîneur, la relation du directeur sportif, c'est football. Donc, comme je change avec les entraîneurs pour aller chercher des joueurs, pour écouter, c'est mieux d'écouter plusieurs personnes. Mais bien sûr que je sais le moment de parler aussi. Il y a d'autres fois qui, bah, moi, tu fais un pas en arrière, et tu les laisses tranquilles, tu les laisses passer. Jamais à la mi-temps, je dérangeais l'entraîneur depuis que cela. Jamais. Jamais à la causerie, je m'ai levé pour dire quelque chose. Donc, je sais le moment. Une chose, c'est la porte fermée entre l'entraîneur et le directeur sportif. Et une autre chose, c'est devant les joueurs, ouais, c'est des choses comme ça. Donc, non, notre relation est la bonne. Et des problèmes, tu vas l'avoir. T'as des problèmes avec les gens que tu aimes. Et comment tu vas pas avoir des problèmes bien avec sûr. Les gens qui t'as pas des relations vraiment dans ton cœur. Donc il faut être professionnel, on est payé pour ça.
Moi je voulais rebondir sur la réponse que t'as donnée à Jean-Louis quand tu nous parlais du cycle de 3 ans. C'est vrai que bon, écoute, j'en ai fait des interviews et toi aussi quand on était joueur de foot, mais j'ai l'impression d'entendre un joueur qui est limite sur le départ au mois de juin. Est-ce que tu peux nous rassurer de ce côté-là ou dans un coin de ta tête tu te dis bah pourquoi pas partir déjà au mois de juin?
Non, parce qu'en fait la dernière fois qu'on a discuté aussi c'était longtemps. J'ai parlé de ça. Donc je parlais qui dans ma tête ça a été 3 ans, c'est la question qui était posée. Donc ça va se faire 3 saisons. Donc pour beaucoup de monde c'est rien, un directeur sportif tu fais pas grand chose, mais mentalement il y a une fatigue mentale énorme. Et je veux pas dépasser en limite. Donc dans ma tête c'est pas une menace, c'est rien. On est des adultes, on est des hommes. Bien j'aime sûr. Le club, j'ai beaucoup de respect pour le président, j'ai beaucoup de respect pour l'institution, j'ai la gratitude aussi, mais j'ai beaucoup donné à ce club aussi. Oui. Il faut pas oublier non plus. Donc, parce que j'ai l'habitude juste d'y parler que le club m'a donné, mais je fais aussi beaucoup de choses pour le club.
Donc la question de continuer
la saison et à la fin de saison normalement c'est fini. Moi j'ai envie de me reposer un peu et peut-être essayer d'avoir d'autres choses, d'essayer de dépasser d'autres choses, peut-être, pourquoi pas passer
mon diplôme. Ah, t'as envie d'entraîner, en fait. Voilà, c'est ça.
Ça reste dans ma tête. J'aime le foot, j'aime le terrain, j'aime les entraînements, j'aime la tactique, j'aime discuter. Et peut-être que tu vas faire beaucoup plus ça si t'es à côté du terrain, non?
Eh oui, c'est sûr.
Donc, mais, comme aujourd'hui, j'ai pas le diplôme, donc j'ai pas le droit de travailler en Europe, mais j'ai le droit de travailler dans d'autres pays. J'ai rien, j'ai jamais reçu de propositions, mais ça vient dans ma tête. Et avec Peter, j'y apprends beaucoup de choses.
Ouais, c'est donc, important. Ça.
Et ça me fait bien aussi. Mais je ne sais pas, parce que dans la vie, on va jamais avoir tout ce qu'on veut.
Non, mais...
Si c'est possible, si j'ai une opportunité, moi je pense que je vais essayer. Parce que je préfère essayer. Il n'est pas réussi que dans 10 ans, ou quand je vais voir, j'espère, 60 ans,
il
dit à moi-même, voilà, il dit à moi-même, pourquoi t'as pas essayé? Donc j'ai pas peur d'essayer. J'ai peur de beaucoup de choses, mais pas de ça.
Voilà, ce normalement c'est fini. C'était l'une des bombes, hein, de cette première partie de saison en radio. Juninho qui annonçait donc en direct son départ en fin de saison, départ qui intervient donc quelques mois plus tôt, puisqu'à partir de début janvier, Juninho quitte donc ses fonctions Rotten sans flamme, que vous retrouverez à partir de lundi prochain, tous les soirs de la semaine, en direct, 18h-20h, Jean-Louis Tour et Jérôme Rotten. Vous ne bougez pas, on se retrouve dans quelques instants pour la dernière ligne droite, toute dernière ligne droite de ce RMC Football Show. À tout de suite sur RMC.
RMC Football Show.
Simon Dutin.
19h45, c'est la toute dernière ligne droite du RMC Football Show. On est ensemble jusqu'à 20h, heure à laquelle vous retrouverez l'after autour de Timothée Mémon. Mais pour l'instant, on se tourne vers les 16e de finale de la Coupe de France. C'est l'événement foot du week-end et notamment sur ce qui sera l'affiche prévue à 21h30 dimanche. Chauvigny, club de National 3, reçoit l'OM. C'est à Limoges. Pour en parler, on accueille David Filippo, reporter correspondant de RMC Sport. Salut David.
Salut Simon.
On est toujours évidemment avec Manu Amoros, hein, qui va suivre d'un œil attentif cette rencontre. David, ce match qui se joue à Limoges, la mauvaise nouvelle, c'est que ce sera avec une jauge anticipée. La bonne nouvelle, c'est que ça aurait pu être encore pire.
Ouais, Simon, le club de Chauvigny finalement est passé par tous les états. Tout d'abord, un stade de Limoges plein à craquer, c'est où va se jouer ce match. Donc on parlait de 13 500 personnes. Puis... au milieu de semaine, une jauge à 5000, jauge imposée pour les enceintes à partir de lundi prochain. Finalement, ils seront quasiment 8000 venus de Vienne pour pousser leur équipe face à l'Olympique de Marseille dimanche soir. Julien Caillou, gardien de but et capitaine du club amateur de National 3, est plutôt satisfait finalement.
En effet, on est passé par tous les sentiments, car de guichet fermé, on est passé à 5000 places. Donc on va dire que c'était l'histoire du verre à moitié vide ou à moitié plein. Et la décision finale que d'augmenter le nombre à 8000 spectateurs, c'est effectivement un moindre mal. Et je pense que ça satisfait l'ensemble des acteurs, à savoir les joueurs, également les supporters, les dirigeants. Donc au final, on a un verre à trois quarts plein, donc c'est plutôt pas mal et satisfaisant pour tout le monde.
C'est donc le soulagement, hein, finalement, car le club avait vendu 6400 billets mercredi midi. Imaginez le bazar si la jauge avait été fixée à 5000. Il aurait fallu rembourser qui, on savait pas trop. Dans les heures à venir, le millier de places restantes devrait en tout cas partir comme des petits pains.
En attendant, et évidemment, David, quel que soit le niveau de la jauge, on imagine que même pour les gens qui ne seront pas au stade, l'engouement autour du club de National 3 est très fort. Là encore, c'est un euphémisme.
Oui, la petite commune de 7000 habitants vit au rythme de cette rencontre, hein, contre l'Olympique de Marseille depuis le tirage au sort. Et pendant les fêtes de Noël, il n'a été question quasiment que de ça.
Toutes les discussions, effectivement, je pense, tournaient autour du foot, de Chauvigny et puis de ce match à venir. À titre personnel, effectivement, on a fait les fêtes de
Arthur, après on revient à la
famille. Et c'était vraiment le sujet de conversation principal. C'était pas la politique cette année, mais plus le foot.
C'était Julien Caillou, hein, le capitaine et gardien de but encore de cette équipe de Chauvigny. Vous le voyez, on a délaissé un peu la politique. Le Covid même, un peu m'a dit un joueur. On en a beaucoup moins parlé pendant ces repas de famille cette année à Chauvigny pour parler de ce match, mais surtout pour parler de l'Olympique de Marseille, car beaucoup de joueurs, hein, de cette équipe amateur sont fans de ce club. Hugo King, c'est l'avant-centre de cette équipe de Chauvigny, fait partie de ces accros, on va l'écouter.
À l'annonce, au tirage, on était dans les vestiaires après la victoire contre Chartres. Et en fait, j'étais choqué en fait. Parce que l'OM, c'est le club que je supporte depuis jeune. J'ai été bercé par l'époque Mamadou Niang, Bakary Koné, Tai Taiwo. Et puis même maintenant, je les suis. Il y a Dimitri Payet, c'est un joueur que j'adore en fait. Et jouer contre eux, les voir juste à côté de moi, ça va être incroyable.
Chauvigny s'apprête vraiment à vivre un moment historique. Historique, c'est d'ailleurs le mot qui revenait sur toutes les lèvres cette semaine, mercredi soir, quand j'ai pu assister à l'entraînement de cette équipe amateur qui jouera donc l'OM dimanche soir à 21h30.
Merci beaucoup David pour cette touche d'ambiance, cette rencontre entre Chauvigny, équipe de National 3 et l'OM 3e de Ligue 1. Elle symbolise, elle incarne ce fameux charme de la Coupe de France, même si on l'a compris, la fête aurait pu être encore plus belle demain soir à Limoges. On va demander son avis à l'un des intéressés. J'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Maloyer, l'entraîneur de Chauvigny. Bonsoir Stéphane, merci d'avoir accepté l'invitation du RMC Football Show.
Bonsoir.
Stéphane, avant de parler ballon autour de ce qui s'annonce comme un immense défi sportif pour votre équipe, je suis malheureusement obligé de commencer par la question un peu pénible. Où en êtes-vous niveau Covid? Est-ce que cela a perturbé votre préparation pour cette rencontre? En d'autres termes, est-ce que vous avez des forfaits pour dimanche?
Non. On a fait tout ce qu'il fallait pour être au mieux pour ce match. J'avais déjà prévenu mes joueurs de bien se protéger pendant le réveillon aussi de Noël. Donc non, on a essayé de faire les choses comme il le fallait. On en avait parlé après le match de Chartres où on avait évoqué de passer aussi le premier de l'an tous ensemble pour pas qu'il y ait de problème. Donc non, on a tout fait pour que tout se passe au mieux, ne serait-ce que même par rapport aux entraînements dans la préparation des entraînements où on a mis deux voire trois vestiaires en place pour que tout le monde puisse être au mieux et que qu'on fasse vraiment le plus attention possible par rapport à ce phénomène.
Et c'est déjà, on l'imagine, une satisfaction avant cette rencontre. Stéphane, on imagine qu'il y a tout de même un peu de déception chez vous, chez les supporters, puisque même si ça aurait pu être pire, une jauge anticipée sera appliquée dimanche soir au stade Beaublanc de Limoges, qui ne sera autorisée à accueillir que 8000 spectateurs. Je disais que ça aurait pu être pire parce que jusqu'à ce matin, c'était 5000 avant une réunion de la dernière chance, entre guillemets, à la préfecture de la Haute-Vienne.
Ouais, vous avez raison. Ouais, non, ça dure depuis pratiquement 48 heures au niveau des négociations. C'est vrai qu'on aurait aimé avoir la totalité du public pour satisfaire tout le monde. Bon, aujourd'hui, on était rendu sur une jauge à 5000. On a la possibilité d'avoir 8000, donc on va pas non plus se plaindre. J'espère que ce que je remarque, c'est qu'on avait tellement de supporters qui faisaient la queue hier sur la billetterie et que certains sont repartis avec aucun billet. Et c'est vrai que c'était malheureux à voir parce qu'on a repoussé pratiquement 400 à 500 personnes qui attendaient là depuis des heures et des heures. Donc c'est vrai que c'était malheureux pour ces personnes. Donc je suis content aujourd'hui qu'on puisse avoir un plus pour qu'on puisse donner du bon temps à ces gens-là pour dimanche.
Bon, on va pouvoir parler un petit peu football. Du coup, ballon, question toute bête, Stéphane Maloyer. 5 divisions d'écart entre Chauvigny et l'Olympique de Marseille. Est-ce que vous y croyez pour dimanche, tout simplement?
Bah écoutez, si on en est là, c'est qu'on y croit. C'est qu'on n'est pas là par hasard. Donc non, on a travaillé pour, on a tout fait pour. On prépare encore jusqu'à samedi après-midi, puisque mon dernier entraînement sera samedi après-midi. Non, on se prépare au mieux pour ce match. Et puis effectivement, vous savez, dans Manu pourrait le dire aussi, hein, il y a toujours des surprises au niveau de la Coupe de France. Donc pourquoi pas. Après, je sais que ça va être, même si on a un infime pourcentage par rapport à cette équipe de l'OM, on essaiera de jouer à fond le coup. Et puis pourquoi pas une surprise. Mais on sait ce qu'on a en face de nous. Et voilà, après on verra un petit peu le contenu dimanche.
Eh bien justement Manu, on en parlait hier ensemble, tu as déjà eu quelques surprises toi face à des équipes qui jouaient plusieurs divisions en dessous de toi en Coupe de France. Quel conseil tu donnerais aux joueurs de Chauvigny et à Stéphane Maloyer pour dimanche face à l'OM?
Conseil, c'est sûr que en étant professionnel, quand on joue en première division, quand on rencontre des équipes soi-disant plus faibles et d'un niveau plus bas, c'est difficile pour un professionnel de se concentrer et de pouvoir donner le meilleur de soi-même. Alors, un conseil, ça serait de pas les regarder jouer, de jouer son jeu, son propre jeu, de continuer à mettre la pression sur l'équipe professionnelle. Parce que si on les laisse un peu trop regardant cette équipe de l'Olympique de Marseille, ça risque d'être compliqué et difficile après pour eux. Donc n'ayez pas peur de l'équipe de Marseille, jouez votre propre jeu et vous en sortirez sûrement grandi.
Ça fait partie de votre discours, ça, auprès de vos joueurs, Stéphane Baloyer?
Bon, c'est à peu près ça. Comme j'ai dit, je rajouterai la touche du plaisir en même temps, parce que le plaisir reviendra en faisant les efforts tous ensemble. Après, comme j'ai dit, je ne dérogerai pas. J'ai pas dérogé non plus mes entraînements par rapport à ce match. Tout le monde nous voyait faire une mise au vert, nous voyait faire des choses, mais qui auraient pu ça aurait pu faire tourner la tête à certains de mes joueurs. Donc, c'était pas la peine de déroger par rapport à notre fonctionnement, mais ce que dit Manu est vrai. On essaiera de faire ce match pleinement et surtout prendre un grand plaisir. Et surtout, c'est vrai, ne pas les regarder parce qu'on risque d'avoir des déconvenues autrement. Oui.
Du coup, au niveau de la préparation, on peut dire qu'on axe plus le travail sur le mental que plus que sur la technique et la tactique.
Vous savez, quand on a un match comme ça en face de nous contre une équipe de l'OM, le mental, je pense que tout le monde doit l'avoir. Après, c'est surtout sur des faits où je travaille un petit peu plus actuellement sur la vidéo, où on essaye effectivement de travailler sur les systèmes du coach de l'OM qui sont un petit peu complexes. Mais voilà, donc on essaye de mettre les meilleurs moyens de notre côté pour essayer de rivaliser, donner une donne supplémentaire par rapport à cette équipe, quoi.
Et toi, Stéphane, tu vas faire un schéma tactique qui va être différent par rapport à tes matchs de championnat. Pour dans un premier temps, peut-être subir un peu, hein, ou pas. C'est-à-dire faire peut-être un 5-4-1 par exemple en première mi-temps pour essayer de pas trop subir et de pas prendre bien sûr des buts trop rapidement. Et après éventuellement de changer de façon de jouer pour essayer si le résultat à la mi-temps est convenable, je dirais. Est-ce qu'il y a une possibilité de changer?
Attention, Roré Sampaoli nous écoute tous les soirs, hein, Stéphane.
Non, le 5-4-1 était évidemment, Manu, un premier jet par rapport à cette équipe, effectivement, puisque quand tu regardes toutes les équipes qu'on jouait contre eux en coupe, toutes les équipes sont parties, même Reims sur le dernier match qui est parti aussi à 5 derrière. Donc effectivement, on a cette option là à 5. Après, comme je vous l'ai dit, on est une équipe qui veut jouer, qui veut aussi on veut pas trop déroger à notre fonctionnement actuel aujourd'hui. Après, effectivement, on pourra peut-être apporter une touche supplémentaire, comme tu le disais, peut-être sur une première période où on sera sur un système de jeu peut-être plus défensif, sachant qu'on est relativement costaud défensivement sur notre fonctionnement. Après, comme j'ai dit, il y aura toujours peut-être des possibilités. J'ai des joueurs qui vont assez vite aussi. Donc j'ai une réflexion peut-être sur deux systèmes de jeu effectivement qui pourrait embêter un petit peu l'OM, mais c'est vrai que Manu dans un premier jet, je sais pas s'il est avec moi pour la causerie que j'ai faite hier, mais je crois qu'on était à peu près dans les mêmes propos.
Parce que Stéphane, si tu regardes le système de Sampaoli, c'est surtout sur les côtés qu'il va falloir insister, parce que généralement il met des ailiers comme base sur les côtés, et après défensivement c'est vrai qu'ils sont pas malheureusement
quand on voit un Rongier, ouais, qui se décale beaucoup à droite, ouais. Voilà, exactement. Après, contre Reims, on a vu des Guendouzi aussi arriver sur ce poste-là. Guendouzi tourne un petit peu partout, on voit. Ouais. Exactement. Donc ils sont dans des relais à trois. Après, on voit bien que Payet aussi de l'autre côté, souvent côté gauche pour rentrer un petit peu. Donc voilà, il y a pas mal de choses. Après, ça va dépendre aussi ce qu'on va avoir en face de nous en fonction de l'équipe qui va annoncer. Mais voilà, on essaye de trouver toutes les solutions, de se mettre tous les moyens de notre côté pour pouvoir avoir un contenu opérationnel contre ce 11 de départ, quoi.
Oui, et tu vas dire à tes joueurs de pas trop perdre le ballon trop rapidement pour pas trop subir quand même, non?
C'est le but. J'ai vu que contre le Canet, ils avaient perdu beaucoup de ballons sur des relances longues qui étaient pas plus maîtrisées que ça. Après, effectivement, physiquement, voilà, il va falloir aussi répondre présent dans tous les domaines, que ça soit voilà. Et aujourd'hui, voilà, j'ai une équipe qui est relativement jeune, qui est un peu insouciante, mais qui est courageuse. Donc, j'espère de ce côté-là qu'on puisse rivaliser aussi.
Stéphane, vous êtes 4e de National 3, groupe Nouvelle-Aquitaine. 5 points seulement vous séparent du leader. Ce match, on l'imagine, quel que soit le résultat, qualification ou élimination, il doit vous servir pour la suite de la saison.
Exactement. C'est ce que j'ai dit à mes garçons encore hier. C'est des moments où il faut effectivement prendre du plaisir, où il faut effectivement vivre le moment intensément, mais c'est aussi garder ces moments-là aussi pour la suite du championnat pour nous. Comme je l'ai toujours dit, moi, le championnat prime avant tout la Coupe de France. La Coupe de France, c'est vraiment quelque chose de plus. C'est vrai que là, aujourd'hui, on est dans un fonctionnement extraordinaire, mais c'est quand même le championnat qui prime. Et hier soir, je disais encore à mes deux suspendus, je suis navré encore une fois pour eux, parce que j'ai Ismaël Cissé et puis Alpha Silla qui sont suspendus sur ce match-là de l'OM, qui sont des garçons qui sont dans un 11 de départ, mais qui aujourd'hui seront suspendus, mais qui seront opérationnels en championnat. Et je leur ai dit, je préfère vous voir en championnat que sur la coupe. Donc on est quand même dans un raisonnement de championnat. Après, la coupe, comme je vous ai dit, c'est que du plaisir. Et j'espère qu'on en donnera, on prendra du plaisir, et c'est surtout qu'on donnera du plaisir aux gens qui viendront nous regarder.
Et c'est tout ce qu'on vous souhaite, évidemment. Manu, est-ce que tu as une dernière question pour Stéphane Malloyer, un dernier mot d'encouragement?
Bien sûr, je crois qu'il faut qu'ils jouent leur chance à fond et qu'ils aient pas peur de l'Olympique de Marseille. Ils ont des failles comme toutes les équipes. Au coach, à Stéphane, de bien cibler, et on a pu comprendre qu'il les a bien ciblés par rapport à des vidéos qu'il a vu et qu'il a peut-être montré aux joueurs. Donc jouez à fond, jouez votre football et pourquoi pas se taper l'Olympique de Marseille.
Écoute, si c'est possible, on le fera, il n'y a pas de souci.
Oui, il faut.
Merci beaucoup Stéphane Malloyer
d'avoir pris le temps de répondre aux
questions du RMC Football Club. On vous souhaite bonne chance pour le match Chauvigny-OM, on le rappelle, c'est dimanche soir à Limoges à 21h30 en clôture de ce qui se jouera, de ces 16e de finale de Coupe de France. Et puis que les supporters marseillais nous pardonnent, mais en cas de victoire de Chauvigny, on aura droit à une nouvelle belle histoire en Coupe de France. Et vous le savez, nous, on adore raconter les belles histoires. Et rendez-vous dimanche pour le résultat de ce Chauvigny-OM. C'est 21h30 en clôture des matchs qui se tiendront lors de ces 16e de finale. On est un petit peu en retard, je rends l'antenne, je remercie Manu, t'es avec moi demain encore pour
encore
le dernier jour de l'année.
De
RMC
l'année,
Football
exactement.
Show qui ne s'arrête jamais. Je te retrouve demain avec un grand plaisir et je laisse
merci
la place
Simon,
rapidement.
Bonne soirée à tous.
À l'after, Timothée Bémont, Sepp Piostel, Walid Acharchour, ça démarre dans un instant. Ciao.
RMC Football Show.